Allez, comme chaque jour, on va rejoindre avec plaisir Gérard Angel et son invité depuis le restaurant L'Institution pour les coulisses du Grand Lyon. Bonjour Gérard.
Bonjour Richard. Richard Zelmati, bonjour, vous êtes avocat et il y a 30 ans, jour pour jour, vous étiez dans la salle des pas perdus de l'ancien palais de justice pour participer à l'ouverture du procès Barbie, auquel vous avez d'ailleurs participé en tant qu'avocat. Alors vous étiez avocat pour qui? Puisque dans la défense, il y avait une trentaine d'avocats, un seul avocat dans la défense, dans les parties civiles, pardon, trentaine d'avocats, alors que dans la défense, il y avait un seul avocat, c'était Maître Vergès. Vous étiez avocat pour qui?
D'abord, Gérard Angel, bonjour.
Bonjour.
Effectivement, 30 ans après, ça nous remémore ce procès qui, avec intérêt, va être à nouveau sur la place publique puisqu'il y a un certain nombre de conférences qui vont donc manifester l'anniversaire des 30 ans de ce procès Barbie. Vous me posiez la question, c'est vrai que je faisais partie des plus jeunes avocats. Pour ma part, j'avais été choisi par Serge Klarsfeld. Je ne me souviens plus qui a pu recommander mon nom à cette époque-là, mais c'était pour moi une fierté pour le jeune avocat que j'étais. Serge Klarsfeld avait à cette époque, au travers de son association Les Filles et Fils de Déportés Juifs de France, avait une soixantaine de parties civiles individuelles, parmi lesquels les enfants et les parents et les survivants des enfants d'Izieux. Et avec lui, nous avons progressivement conduit donc une défense dans l'intérêt de ces parties civiles, qui au fil du temps, et avant bien sûr le procès, n'ont fait que grossir. Voilà à peu près le sentiment qu'il me reste.
Vous étiez là pour les enfants d'Izieux et pour les représentants de ces enfants qui ont été déportés à l'époque alors qu'ils étaient simplement abrités dans cette pension à Izieux.
Voilà. Et puis pour l'association des filles et fils
des
déportés.
Dites-moi, quel souvenir vous gardez du jour de l'ouverture? Vous étiez, j'imagine, dans cette salle. Ça a été un moment extraordinaire quand vous l'avez vu, Klaus Barbie, apparaître dans le box des accusés, derrière une vitre blindée, ce qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque.
Alors pour moi, comme je pense tous les participants, d'abord une intense émotion, non pas parce qu'il comparaissait devant nous, mais en référence à ce qu'il avait fait et aux disparus de par son action, une intense émotion. Et puis, une espèce de sentiment étrange de considérer que les années ont passé et que cet homme avait, entre guillemets, honoré son rendez-vous avec l'histoire et particulièrement l'histoire judiciaire.
Enfin, il avait honoré, on l'a poussé peu, on l'a forcé, on est allé le chercher de force.
C'est un autre débat, mais il fallait qu'il rende des comptes à ses victimes et aux familles de ses victimes. Donc le sentiment qui m'animait à ce moment-là, c'était tout de même donc une émotion.
Alors, est-ce que l'homme qu'on jugeait 50 ans après les faits, c'était encore le même homme? Est-ce que vous arriviez à faire le lien entre le jeune nazi qui avait fait des choses épouvantables à Lyon quand il était en poste pendant la guerre et ce vieillard un peu voûté, enfin terriblement vieilli?
Alors ça, c'est la marque de l'âge, mais l'individu qui a pu rester les trois premières journées de son procès était intact. Rien n'avait quitté les caractéristiques d'une nazie zélée qu'il était, absolument rien. Et nous savions par son histoire personnelle, donc après la guerre, et les services qu'il avait pu rendre à des gouvernements divers et variés, et tout dernièrement en Bolivie, démontrer que Barbie n'avait pas changé.
Barbie était toujours Barbie et les rares témoins qui sont venus, qui avaient malheureusement souffert sous cet homme, l'ont-ils reconnu?
Indiscutablement. Et vous savez, il y a donc un trait qui n'a pas échappé donc à ses victimes, c'était donc ses yeux. Et immédiatement, toutes celles et ceux qui étaient passés, entre guillemets, une fois encore, entre ses mains, l'ont immédiatement reconnu, mais l'avaient déjà fait.
Quelle était la personnalité de Klaus Barbie?
Un nazi zélé, je vous le disais, indiscutablement épris d'une idéologie dont il ne s'est jamais départi, servir le Reich et rien d'autre.
Dites-moi, Richard Zelmati, en quoi un procès comme ça a pu être utile? Parce que, bon, finalement, le verdict lui-même était connu à l'avance. On savait très bien qu'il allait être condamné à la perpétuité. La peine de mort n'existait plus depuis quelques années. Donc, il allait prendre la peine maximum. En quoi c'est utile?
Alors, comme je l'avais plaidé donc à l'époque, je suis de ceux qui considèrent que sans mémoire, il n'y a pas de liberté. Et il a été utile parce qu'il a été avant tout pédagogique. Et mieux encore, dans la ville des exactions de Barbie. Donc pour les jeunes générations, pour lesquelles à l'âge de 13 ans, on considérait, c'était un sondage qu'Hitler ne connaît pas, eh bien ce procès a remis donc ces atrocités dans leur mémoire pour justement qu'on puisse contribuer à faire en sorte que plus jamais ça.
Richard Zelmati, c'était la première fois en plus qu'un procès était filmé, un procès d'assises était filmé en France.
Oui, Robert Badinter avait très bien fait
les
choses.
Qui était à l'époque garde des Sceaux.
Garde des Sceaux. Avait d'abord voulu que, lorsque Barbie a posé le pied sur le sol français, eh bien, il soit incarcéré donc, à la prison Montluc, celle-là même où Moulin, d'autres, et notamment le dernier convoi, étaient séquestrés. Et puis, on a considéré qu'il fallait donc faire ça à Lyon, dans ce palais historique, parce que c'était donc là où il devait rendre des comptes.
Richard Zelmati, pour la défense, je l'ai dit au début de notre entretien, c'est Vergès qui a défendu tout seul. Quelle défense il a adoptée à l'époque? Parce que franchement, Klaus Barbie, il était difficilement défendable.
Alors,
d'abord, il n'a pas assisté à son procès. En fait, au bout de 3 jours, il a décidé qu'il ne viendrait plus.
Bon, Jacques Vergès a mis en pratique sa défense dite de rupture donc habituelle. Il avait cet avantage pour lui, pour un avocat, cet honneur d'être seul contre tous, partie civile d'une quarantaine donc d'avocats. Et puis surtout, il a fait en sorte de faire taire Klaus Barbie, dont je pense qu'il se serait expliqué, puisque je l'ai moi-même donc interrogé sur son passé nazi. Et c'était une stratégie. Et à partir de ce moment-là, il a répondu en lieu et place de son client, en mettant bien évidemment en exergue la stratégie, non pas seulement judiciaire, mais politique, qui est la sienne.
Avant de nous quitter, juste un petit mot. Alors, il y a quelques manifestations. Hier, il y avait une manifestation pour le jour de l'ouverture. C'était à la mairie. Je crois que le CHRD fait des choses dans les jours qui viennent.
Alors, pas que le CHRD. Aujourd'hui même, il y a donc deux conférences à 15h et à 17h30 qui sont importantes, où participeront donc monsieur et madame Klarsfeld. Cette organisation, on la doit à l'un des avocats généraux qui était présent, donc monsieur Jean-Olivier Vieux, et tout au long de la semaine auront lieu des manifestations, pas seulement au CHRD. Et je recommande bien sûr à toute cette jeunesse, et l'affluence à ces conférences démontre l'intérêt que la jeunesse porte à ce procès.
Eh bien, on va suivre ça avec intérêt, toutes ces commémorations. Richard Zelmati, je vous remercie.
C'était les coulisses du Grand Lyon sur Jazz Radio avec Gérard Angèle. Retrouvez l'intégralité de cette interview sur lyonmag.com, partenaire des coulisses du Grand Lyon.